Alors, je vous l'ai dit, vous avez le programme. Au cours de la matinée, vont se succéder différents enseignants de l'école pour des interventions ponctuelles hein, sur le fonctionnement de l'école, ce que c'est de faire des études à l'EHESS, ainsi qu'un certain nombre de conférences sur des aspects pratiques. L'une d'elles étant celle de Vincent Duclerc, ici présent, qui est un spécialiste de l'histoire de l'EHESS, qui a parmi tous ces spécialistes d'histoire, qui connaissent bien l'histoire de notre école, qui est une histoire un petit peu particulière même dans l'enseignement français, l'enseignement supérieur français. Et donc, comme le président a été retardé, je pense qu'il est avec le prix Nobel, Vincent Duclerc, donc, on a le plaisir de l'accueillir ici, va nous parler de l'histoire de l'école.
Merci. Donc traditionnellement, donc j'interviens après le président qui dresse en fait un portrait de ce qu'est l'école aujourd'hui. Vous aurez effectivement ce portrait après l'évocation de l'histoire de l'école. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une école un peu particulière. Hein. C'est une université, même si elle s'appelle école. C'est pas une grande école, hein, puisqu'il n'y a pas de concours d'entrée. Il y a, je veux dire, la rencontre avec un enseignant chercheur qui va guider votre recherche. Et cette école des hautes études en sciences sociales, elle a deux objectifs fondamentaux. C'est d'abord effectivement de travailler la recherche des sciences sociales. Donc, il y a une unité des sciences sociales. Hein. Il y a pas, comme dans les universités, des départements d'histoire, de sociologie. C'est vrai que pour la commodité, on distingue les disciplines, mais globalement, chaque chercheur, chaque enseignant chercheur, chaque étudiant travaille certes dans un domaine disciplinaire, mais avec la perspective des sciences sociales. Donc ça, c'est un premier point essentiel. Le deuxième point, c'est que c'est une institution qui associe la recherche et l'enseignement, c'est-à-dire que la recherche sert à l'enseignement. L'enseignement, c'est l'enseignement de la pratique de la recherche, hein, et à l'inverse, l'enseignement concourt aussi à la recherche, puisque c'est, vous savez, en exposant sa recherche, que la recherche s'approfondit. Donc, il est très important aussi pour les chercheurs de l'EHESS d'être des enseignants. Voilà. Alors, ces deux caractéristiques qui témoignent d'un fort projet intellectuel. D'un fort projet intellectuel. Alors, aussi le président, je pense que probablement, ça serait mieux, effectivement, qu'il. Tu veux. Bah, je viens juste de commencer, donc.
Pardon, tu commences tout de
Oui. C'est peut-être mieux que tu. Voilà, donc vous avez déjà les deux éléments, et je reviendrai sur l'histoire dans un instant.
Quels sont les deux éléments?
La recherche et l'enseignement, la sciences sociales.
Aucun doute. Là-dessus, on est d'accord.
Oui.
Oh. Excusez mon retard. Bonjour, donc je suis Pierre-Cyril Lecoeur, je suis le président de l'école. Je suis un peu en retard parce que. J'arrive d'une réunion consacrée au futur campus que peut-être quelques-uns d'entre vous connaîtront, qui va être construit pour l'école et quelques établissements amis à Condorcet, au campus Condorcet qui sera construit à Aubervilliers. Donc, bienvenue à tous, étudiantes, étudiants, je devrais dire jeunes chercheuses, jeunes chercheurs, vous tous qui venez. Ici, je l'espère, pour poursuivre dans la tradition de cette école qui est de former des esprits libres et savants qui ont l'ambition d'améliorer le monde tel que nous le connaissons, le monde social, le monde économique, le monde politique, par la connaissance et par la connaissance des sciences sociales. Et c'est un projet qui. C'est un projet déjà ancien, qui est le projet qui a été porté par le renouvellement d'un grand nombre de disciplines qui existaient, mais qui existaient d'une manière souvent érudite, tournée vers elle-même. Et ce projet, c'est celui déjà des annales d'histoire économique et sociale, fondées par Lucien Febvre et Marc Bloch. Lucien Febvre qui, en 1947, crée cette école comme un rassemblement de gens qui sont portés par ce projet, qui n'est pas seulement un projet de savoir, qui est d'abord un projet de transformation du monde. Ce sont des gens qui sont passés à travers des crises, la Première Guerre mondiale, la crise des années 30, la montée du fascisme, la Deuxième Guerre mondiale, qui qui ont été résistants. Bloch est mort dans un camp. Ce sont des gens qui ont affronté tout ce qui a été de plus dur dans la première moitié du XXe siècle et qui font partie de cet immense effort à ce moment-là pour faire que plus jamais ce genre de choses ne se reproduisent. Ça peut paraître un peu grandiloquent de nous ramener à ce genre d'exemple, mais je ne crois pas que ça le soit. Je crois que nous avons aussi aujourd'hui toute une série de défis extraordinairement lourds et parfois angoissants dans la société dans laquelle nous vivons, et nous sommes ici pour nous y attaquer. Nous ne sommes pas ici seulement pour faire des carrières universitaires, pour devenir des chercheurs. Nous sommes ici pour aider notre société à résoudre ces difficultés qui sont grandes. Et c'est pour ça que dans cette maison se sont réunis, pendant des années, des gens qui n'étaient pas seulement de très grands savants, mais qui se réunissaient pour s'attaquer à des questions majeures de la société. À la création de l'école, il y avait Lucien Febvre, alors professeur au Collège de France, toute la renommée de ses travaux d'histoire médiévale et d'histoire de la Renaissance. Il y avait aussi des économistes comme Fourastier, celui qui allait inventer le mot des Trente Glorieuses. Il y avait des gens comme Bertin, qui était un des inventeurs de, on pourrait dire, de la cartographie, mais au-delà de ça, de la modélisation des données, de la visualisation des données, et qui est devenu aujourd'hui une des personnes les plus réputées auprès des informaticiens qui cherchent à faire émerger une compréhension des fameuses big data dont nous parlons, dont on parle beaucoup dans la presse, et qui sont parmi les questions qui se posent aujourd'hui pour vous. Donc le HESS, c'est cet endroit où des gens ayant des savoirs très profonds dans des domaines extrêmement variés dans le temps, puisque nous avons toujours cherché à réunir depuis les archéologues jusqu'aux gens qui travaillent sur le monde contemporain, les archéologues dont certains parmi les plus fameux de l'archéologie française des 40 dernières années, des historiens, les médiévistes, les contemporanistes, toutes les sciences sociales réunies dans l'idée de chercher à répondre à des questions. Mais dans le temps et aussi dans l'espace, l'école, au moment même où le monde se repliait sur des espaces nationaux à la suite des guerres mondiales, de la crise, etc., l'école a été un des lieux dans lequel on pouvait faire du dialogue entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud, un des lieux où les gens se réunissaient pour travailler sur les défis que posait ce repli sur soi, puis que posait, au contraire, la réouverture et la mondialisation. Et on ne peut pas ne pas penser à tous ces gens qui ont vécu dans leur savoir, mais aussi dans leur chair, l'effort de comprendre des sociétés différentes. Cette année entrera au Panthéon Germaine Tillion. Germaine Tillion, c'est une anthropologue des Aurès qui a passé sa vie à travailler sur une société qui n'était pas forcément facile à comprendre, particulièrement pour une femme, et qui a été résistante, qui a résisté ensuite contre certaines formes de l'occupation française en Algérie, et qui a allié l'engagement et le savoir, exactement comme nous pensons que la meilleure recherche se fait dans cette école. Voilà un peu le genre de choses, un peu l'idéal de l'école. Évidemment, en deçà de cet idéal, et néanmoins très bien, il y a beaucoup de gens qui apprennent, développent des savoirs, développe des recherches nouvelles, et il y a cette capacité particulière pour l'interdisciplinarité. L'interdisciplinarité, c'est un mot qui souvent est creux, mais qui ne se comprend qu'à partir de ce que je viens de dire auparavant, c'est-à-dire qu'à partir de cette volonté de répondre à des questions qui nous sont posés par la société, mais qui doivent être reformulés par les chercheurs dans leurs termes pour donner la possibilité de réellement trouver des réponses, de retrouver des réponses, de faire progresser la connaissance. Et donc l'interdisciplinarité, en fait, c'est une articulation complexe de savoirs disciplinaires approfondis à partir de questions. Et une des forces de cette école a toujours été d'être un des endroits où on a modifié les articulations disciplinaires parce qu'il n'y a pas de département au sens formel, parce qu'il n'y a pas cette ambition première et tout à fait noble des universités qui est de transmettre un savoir, mais qu'il y a d'abord la volonté de transformer le savoir et de répondre à des questions, eh bien l'école est un des lieux où les frontières disciplinaires se modifient. Prends un exemple dans le domaine qui est le mien, l'histoire économique, c'est un des domaines dans lesquels l'école a été pionnière pour l'utilisation de nouvelles sources, en particulier pour la quantification, dans les années 50 et 60, un moment où c'était quelque chose de complètement nouveau par rapport à ce qui se faisait en histoire. Et puis, dans les années 70, François Furet, qui était à ce moment-là président de l'école, à la fin des années 70, s'est rendu compte qu'il y avait un épuisement des méthodes de cette histoire quantitative. Et il y a eu un renouveau critique en histoire d'un côté, et symétriquement, parce que les deux, en fait, vont de pair, contrairement à ce qu'on a quelquefois pensé, symétriquement, il y avait un renforcement des exigences techniques en économie, et désormais, le travail conjoint possible entre des historiens beaucoup plus critiques des sources qu'ils ne l'étaient auparavant et critiques de la manière de les interpréter, et de l'autre côté, des économistes beaucoup plus techniques dans leur utilisation de méthodes quantitatives, statistiques, dans leur modélisation plus rigoureuse des faits. Et ça a abouti à une floraison de travaux en histoire, en anthropologie historique en particulier, et à une autre floraison de travaux en économie mathématiques et formalisées, qui a abouti hier au prix Nobel de Jean Tirole, qui est l'une qui a dirigé progressivement l'une des trois branches créées par le HESS dans les années 80 en économie à Paris, Toulouse et Marseille. Vous voyez que il ne faut pas hésiter à transformer assez profondément la manière dont on aborde une discipline pour la renouveler. Ça n'est pas un effort d'affadissement que de faire du travail interdisciplinaire, c'est un effort qui doit être systématiquement le couplage de savoirs disciplinaires très avancés, très techniques. Et aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, c'est à partir du numérique, à partir des nouvelles données qui sont disponibles, que de nouvelles frontières à la fois techniques et épistémologiques et théoriques s'offrent à vous. Et je vous invite fortement à vous y attaquer comme à d'autres. Alors vous venez ici en master ou en doctorat. Vous venez de partout. La moitié des étudiants de l'école sont étrangers, avec des provenances principalement d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, mais aussi d'Afrique, d'Asie et même d'Océanie. Nous sommes heureux que vous veniez ici. Nous sommes heureux de cette diversité qui fait aussi la richesse de l'école. Si l'école a réussi à développer des travaux sur les aires culturelles du monde entier et à faire travailler ensemble de manière comparatiste ou à étudier les circulations qu'il peut y avoir entre les aires culturelles, les influences, si elle a pu le faire, c'est en particulier parce que ces étudiants viennent du monde entier et qu'ils ont évidemment une capacité particulière à faire ces comparaisons. Et je crois que ce que nous réussissons à faire, que vous devez réussir à faire, c'est d'allier les traditions intellectuelles de l'école, vos propres traditions intellectuelles de partout d'où vous venez, et également vos connaissances sur toutes les sociétés. Et à cet égard, il n'y a peut-être pas plus important pour vous que de vous parler les uns aux autres et de profiter au maximum de ces richesses. C'est une école où, certes, les enseignants sont excellents, j'espère, que vous en serez heureux, mais surtout, c'est vous, les jeunes chercheurs de demain, Et c'est d'abord entre vous que vous ferez progresser la connaissance. Et donc, vous allez évidemment assister à des séminaires. Les séminaires, c'est organisé par un enseignant, par plusieurs enseignants, mais c'est aussi des lieux où vous avez la parole. C'est des lieux où vous devez discuter avec les uns avec les autres, et c'est des lieux en sortant desquels vous devez continuer la discussion si les questions qui y sont abordées sont suffisamment importantes. Et si elles ne vous intéressent pas suffisamment, il faut que vous alliez à d'autres. Voilà. Il faut que vous alliez à d'autres. Il y a 1000 séminaires dans cette maison. Si vous ne trouvez pas des séminaires qui vous intéressent, qui vous excitent suffisamment, c'est que vous n'avez pas bien cherché. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Je sais que c'est foisonnant, je sais que c'est compliqué de trouver. Parlez entre vous, parlez avec les enseignants et ne suivez pas trop exclusivement les conseils des enseignants. Il y a, évidemment, ils vous donneront des bons conseils, vous avez intérêt à leur parler, mais il faut aussi que vous parliez entre vous pour savoir qu'est-ce qui va réellement convenir à votre projet individuel. Vous êtes à la fois nombreux et peu nombreux. Il y a approximativement 1500 doctorants et 1500 étudiants de master à l'EHESS. C'est beaucoup ou c'est peu? Pour beaucoup, 1500 doctorants, c'est énorme. Mais nous, nous considérons que c'est encore une échelle à laquelle vous pouvez effectivement vous connaître suffisamment pour vous enrichir les uns des autres et pour vous stimuler à aller plus loin sur des questions encore plus ambitieuses que celles que vous vous posiez en arrivant. Des questions ambitieuses, ce qui ne veut pas dire que vous allez ensuite faire des réponses molles. Il faut des réponses ambitieuses. Il faut ensuite identifier la manière très technique, très précise, qui va vous permettre de progresser sur ces questions. Donc allez voir des séminaires, parlez aux autres étudiants, exprimez-vous aussi auprès des responsables des formations pour leur dire ce qui serait utile d'ajouter pour tel ou tel d'entre vous, pour vous permettre de réussir ce que vous souhaitez faire. Et puis, projetez-vous dans le futur. Votre objectif, ça n'est pas d'avoir un diplôme. Votre objectif, ça n'est même pas d'avoir un doctorat, ça n'est même pas passer un concours. Votre objectif, c'est, évidemment, tous ces objectifs intermédiaires sont utiles. Et votre objectif, c'est ici d'abord d'apprendre à maîtriser une compréhension du monde, de contribuer à cette compréhension du monde par votre propre action. Et pour ça, vous devez être dans un mode le plus actif possible. Vous n'êtes pas ici pour suivre des cours, apprendre le contenu et le restituer. Vous n'êtes même pas ici pour apprendre des méthodes et les appliquer. Vous êtes ici pour apprendre à maîtriser des méthodes, pour les dépasser, pour les renouveler. Ça doit se faire avec prudence, évidemment, mais c'est votre objectif. Vous devez renouveler des connaissances, des méthodes, des disciplines. C'est ça l'objectif que nous avons dans cette maison. Et ceci, paradoxalement, doit vous amener aussi à une certaine humilité à court terme. Votre mémoire de master ou votre thèse ne sont pas des œuvres ultimes. Ce sont des étapes. Ce sont des étapes qui peuvent être importantes, évidemment, techniquement, en termes de carrière, etc. Mais ce sont des étapes dans le développement de votre intelligence du monde. Et vous devez donc penser à ces étapes comme telles et penser aussi à ce que vous allez en faire. Certains d'entre vous deviendront des chercheurs ou des enseignants-chercheurs. Évidemment, les institutions d'enseignement supérieur et de recherche ont une certaine tendance à la reproduction. Donc tout ce que nous souhaitons, c'est que vous ne nous reproduisiez pas, que vous fassiez autre chose. Mais vous pouvez faire autre chose dans le monde académique, en France, à l'étranger. Pensez qu'une très grande proportion des gens qui sont issus de cette école font leur carrière hors de France, sont recrutés dans des universités hors de France, dans le monde entier. En organisant l'anniversaire de l'école, nous voyons qu'il y a des groupes de docteurs ou de détenteurs de masters de l'école un peu partout dans le monde qui sont nombreux, qui sont peu organisés parce que notre talent principal n'est pas l'organisation, mais qui sont néanmoins vivant. Et il faut que vous pensiez que si vous répondez à des questions importantes pour la société, votre destin n'est pas nécessairement académique. Il y a énormément de métiers dans lesquels on a besoin de gens ayant une capacité critique, une capacité à comprendre de manière approfondie. Un enseignant-chercheur de l'école, Patrick Fridançon, est en ce moment en train d'effectuer une mission pour le ministère de l'Enseignement supérieur sur les débouchés des docteurs, et en particulier pour convaincre les entreprises et les administrations qu'avoir de jeunes chercheurs dans leurs effectifs, c'est quelquefois une bonne manière de renouveler un petit peu les manières de penser, les manières de répondre aux questions, aux questions des citoyens, aux questions des clients, aux questions de tous ceux auxquels ces institutions publiques ou privées sont confrontées. Pensez aussi au rôle, à l'apport que vous pouvez avoir dans des métiers qui peuvent être, sous certaines formes, quelquefois imprévisibles, dans la continuité de votre réflexion actuelle. Votre réflexion ne doit pas déboucher seulement sur des articles ou des livres, elle doit déboucher sur une transformation de la société. C'est tout ce que je vous souhaite. Lancez-vous, n'hésitez pas, travaillez, rencontrez-vous, parlez, demandez ce dont vous avez besoin à tous les responsables de l'école, et j'espère que vous passerez ici des années heureuses.
Merci.
De m'excuser parce qu'il faut aussi que je bondisse dans une autre réunion, mais vous aurez compris que ce n'est pas le destin que je vous souhaite.
Merci, Pierre-Cyril Auqueur. Je crois que c'était un bon résumé de ce que vous pouvez faire à l'EHESS, c'est ce qu'on attend de vous. Ambition et humilité. Et on va revenir donc à cette histoire de l'école. Qu'est-ce qui a amené à cette volonté, cette ambition, pas très humble aussi, de vouloir changer le monde et pas seulement reproduire les connaissances? Et donc Vincent Duclerc, qui était interrompu au début de son exposé, va reprendre.
Merci. Oui, vous avez vu effectivement qu'une certaine manière, l'exposé du président a consolidé les deux premiers points, c'est-à-dire ce couple enseignement-recherche caractérisant le HESS et puis l'unité des sciences sociales. On peut ajouter, et il l'a effectivement bien dit, le fait que c'est une école ouverte sur le monde à travers ses objets de recherche, ses enseignants-chercheurs et ses étudiants. Alors ce projet scientifique, au fond, il a été élaboré d'une certaine manière à la fin du 19e siècle, car l'histoire de l'école est longue. Mais pour institutionnaliser ce projet scientifique, il a fallu beaucoup d'énergie. Et on peut considérer que la naissance institutionnelle de l'EHESS date de 1948, avec donc un premier ensemble de cours dans une institution qui ne s'appelle pas encore EHESS, mais qui préfigure l'EHESS. C'est pour ça que la nécessité de célébrer des anniversaires, c'est un peu compliqué pour l'EHESS, parce qu'elle peut choisir entre 1868, 1948, donc je l'ai dit, 1975 ou 1984-85. Donc une institutionnalisation qui a été compliquée, longue, laborieuse, qui renvoie aussi au fait que les institutions sont fragiles et qu'elles sont vivantes, fragiles, et en cela, elles sont amenées à évoluer, mais évoluer pour demeurer, d'une certaine manière. C'est, je crois, un des éléments de l'histoire de cette école. Pour faire l'histoire de cette école, on dispose d'un peu de bibliographie. Notamment les textes introductifs d'un ensemble publié au CERF sur donc l'école des sciences sociales en 1997. Ce travail documentaire publié au CERF était précédé en 1988 de l'étude de Brigitte Mazon, également publiée au CERF, sur la première EHESS, celle de 1948. Ajoutons à cela que les éditions de l'EHESS ont publié en 2012 trois volumes qui s'appellent « Faire des sciences sociales » et qui renvoie non pas à l'institution École des hautes études en sciences sociales, mais aux pratiques de recherche. Ces ouvrages vous seront certainement d'un précieux secours. Alors, pour envisager donc l'histoire de cette institutionnalisation d'un projet scientifique, ça c'est effectivement un enjeu essentiel, surtout en France, où il y a donc une tradition universitaire. Cette tradition universitaire, à la fin du XIXe siècle, elle rencontrait des difficultés. La France du Second Empire, le Second Empire libéral, donc de la fin des années 1860, constatait l'avancée prussienne et allemande, d'où l'idée émise par Victor Duruy, qui est le ministre de l'instruction publique de Napoléon III. Victor Duruy est un historien. Victor Duruy est un ministre modéré, libéral. Eh bien, il propose à Napoléon III de renouveler le haut enseignement, c'est-à-dire de changer l'enseignement supérieur. Et là, il y a deux manières. Soit on affronte d'emblée les facultés pour les réorganiser, ce qui était perçu probablement comme impossible. Soit on installe à la périphérie des universités des institutions destinées à les réveiller, à les amener au changement. Et du reste, c'est ce qui avait été fait sous la Révolution française et sous le Premier Empire, lorsqu'ont été créés le Collège de France, l'École normale supérieure, l'École polytechnique. Des institutions périphériques visant à renouveler le haut enseignement universitaire. D'où, effectivement, la décision, en 1868, de créer l'École pratique des hautes études. Hautes études renvoyant à haut enseignement. École pratique, c'est la pratique de la recherche. Ce n'est pas une école appliquée, c'est une école qui vise à diffuser les méthodes de recherche en s'inspirant du modèle allemand du séminaire, c'est-à-dire non pas le cours magistral, mais le lieu où s'échangent entre étudiants et professeurs, entre maîtres et disciples, eh bien, les pratiques de recherche et l'avancée de la science. Alors, ce décret de 1868 met en place quatre sections dans cette EPHE, École pratique des hautes études, qui existe toujours, hein, du reste, et ces sections existent toujours. Trois sections pour les sciences exactes et la quatrième section pour les sciences historiques et philologiques. Et un an plus tard, en 1869, était prévue une section pour les sciences économiques et administratives. Alors, on ne dit pas sciences sociales, qui n'existent pas à l'époque, mais vous voyez, effectivement, l'idée, c'est de s'attacher à la compréhension de la société présente. La défaite de la France en face de la Prusse, qui confirme du reste la suprématie intellectuelle de la Prusse, hein, et du reste ça a été théorisé par Ernest Renan, amène donc l'initiative non pas à l'EPHE, mais du côté d'historiens et d'économistes libéraux, l'initiative de l'École libre des sciences politiques pour, d'une certaine manière, traiter des sciences économiques et administratives. Donc l'EPHE se voit dépossédé d'une partie de son projet à cause de la création de l'École libre des sciences politiques. Et cette École libre des sciences politiques, en 1945, deviendra l'Institut d'études politiques de Paris, c'est-à-dire Sciences Po. La question donc va être difficile pour le PHE qui va tenter quand même de créer cette nouvelle section. Alors on va l'appeler le projet, c'est vraiment à la recherche de la sixième section. Pourquoi ? Parce que entre-temps il y a une cinquième section qui est créée à le PHE portant sur les sciences religieuses. Donc la sixième section, elle n'existe pas. Il y a des tentatives. Dès 1903, donc c'est Henri Hauser, un historien économiste, qui appelle à la création du programme Victor Duruy. Donc il parle de la dernière aile, toujours manquante à l'édifice de l'EPHE. Là et non ailleurs doit être le laboratoire où se forgeront les méthodes des sciences sociales, etc. C'est des vœux pieux, hein. On n'y arrive pas. Il y a bien des chaires qui sont créées, une au Collège de France, au Centre national des arts et métiers. Dans les années 30, on crée un centre de documentation sociale à l'École normale supérieure, mais rien n'y fait. Cette sixième section n'aboutit pas. Et donc c'est une sorte d'amoindrissement du projet des sciences sociales. L'étape majeure sera la fin de la Seconde Guerre mondiale et la capacité eh bien, d'historiens et de sociologues qui s'étaient en fait réorganisés dans les années 30 sur un projet scientifique, c'est-à-dire comme l'institution ne marchait pas, on n'arrivait pas à faire la sixième section. Bien, ce qui s'est passé, c'est que le projet scientifique a été développé, pour ne pas perdre de temps, d'une certaine manière. Et ce projet scientifique, il a été largement développé dans le cadre de la revue dont a parlé Pierre-Cyril Auqueur, Les Annales d'Histoire économique et sociale, créée en 1929 par Lucien Febvre et Marc Bloch. Et ces annales d'histoire économique et sociale visaient en fait à appliquer le programme des sciences sociales développé par Émile Durkheim en sociologie et finalement considérer que l'histoire était capable, je veux dire, d'articuler les différentes sciences de la société parce que l'histoire était une discipline relativement plastique, littéraire, qui n'allait pas imposer une méthode trop forte et donc était capable de créer d'une certaine manière le langage nécessaire pour faire travailler les sciences sociales. Et puis, bien sûr, bon, la perspective de viser la connaissance du monde contemporain dans toutes ses dimensions, pas seulement politiques, mais aussi économiques, culturelles, anthropologiques. D'où, effectivement, la possibilité à la Libération, peut-être d'engager la création de la sixième section, avec néanmoins, comme l'a rappelé Pierre-Cyril Auqueur, eh bien la mort pour la France de Marc Bloch, en fait, qui a été exécuté par les nazis le 16 juin 1944. Il y a aussi, il faut le dire, une petite controverse, même une vraie controverse, sur la situation, les rapports entre Marc Bloch et Lucien Febvre, qui lui, survit à l'occupation. Et la controverse, c'est notamment le départ forcé de Marc Bloch des Annales sous l'occupation par application du décret-loi sur portant statut des Juifs. Et là, il y a effectivement une interrogation sur les motivations des uns et des autres. Donc il faut quand même pas, si vous voulez... occulter les questions historiques qui se posent. La sixième section, elle naît donc en 1948 par la volonté donc de Lucien Febvre, de son élève Fernand Braudel, d'un historien économiste Charles Morazé. Tous trois appartiennent aux Annales. Hein, Lucien Febvre reste directeur des Annales. Et ils sont aussi de grands organisateurs, si bien qu'ils trouvent de l'argent à la fois au niveau de la direction des enseignements supérieurs, mais aussi à la Fondation Rockefeller. C'est pour ça que parfois on dit que la sixième section a été créée par la CIA, ce qui n'est pas tout à fait le cas.
On aime le croire.
Mais parfois on le croit.
On aime le croire.
Oui. Et puis, la possibilité donc de mobiliser les administrateurs, notamment celui qui dirige l'enseignement supérieur, Pierre Auger, puis Gaston Berger. Donc, alors là, c'est intéressant parce qu'il y a des vraies solidarités de résistants qui se mettent en place. Alors là, la sixième section, elle a peu d'argent, mais elle a font beaucoup d'ambition. Je vous propose peut-être de voir l'affiche inaugurale. Je peux la montrer. Bon, la voici. Donc c'est une affiche intéressante. Du reste, ouais. Voilà, au moins vous voyez. Alors, non, mais c'est important parce que cette affiche, elle existe toujours. L'affiche, c'est le programme que vous avez dans votre petit sac, simplement déployé sur une grande affiche. Alors maintenant, elle est très très grande parce qu'il y a beaucoup de séminaires, 1000, a précisé le président. Là, ce qui était intéressant, c'est que cette affiche, elle restituait à la fois le projet intellectuel et scientifique de l'école à travers des grands axes, méthodes, orientation et cadre historique, les sociétés humaines, les activités économiques, civilisation au pluriel et civilisation au singulier, et semaine d'enquête. La semaine d'enquête, elle est sur l'histoire contemporaine. C'est l'Allemagne en 1948. Alors, ça montre aussi que la sixième section abordait les questions contemporaines. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi l'organisation de l'école à travers la manière dont elle va mobiliser des chercheurs, des anciens chercheurs de toutes les disciplines et de toutes les institutions. Comme elle a peu d'argent, elle prend des professeurs de la Sorbonne, comme Lefebvre ou Labrousse, et puis elle leur donne le titre de directeur d'études, cumulant, ce qui existe toujours. Et effectivement, donc, l'école, la sixième section, ne paye pas ses enseignants, mais peut effectivement les compter dans son corps universitaire. Donc c'est, vous voyez, au fond, une volonté aussi de gérer une pénurie pour en faire un grand établissement. Alors, cette sixième section, elle va rapidement grandir, il faut le savoir. Voilà, donc j'ai mis des petites croix, en fait, pour effectivement bien identifier un certain nombre de grands chercheurs. Vous avez Roger, bon, c'est intéressant, de Roger Caillois, traite de la guerre, vous voyez, donc un objet à la fois très simple et très complexe et qui nécessite les sciences sociales. Vous allez repérer Claude Lévi-Strauss, par exemple, donc toute une série, et aussi, comme je l'ai dit, des professeurs de la Sorbonne comme Labrousse ou Lefebvre, et qui sont amenés aussi à reprendre leur questionnement. C'est pas seulement de répéter leur cours de la Sorbonne. Donc, c'est effectivement là, je crois, très révélateur. Merci effectivement à Philippe d'avoir pu effectivement présenter cette affiche, très révélateur de ce qu'a voulu faire l'école. Et d'une certaine manière, au fond, cette affiche de 1948, elle reste valable dans les grandes directions de recherche et d'enseignement de l'école. Donc je vais terminer, puisque là, donc j'ai fixé quand même un bloc important. 1948, c'est le début donc de la croissance très forte de la sixième section, donc des sciences économiques et sociales. Avec l'arrivée effectivement de beaucoup d'économistes, la création de centres de recherche, le premier étant le centre de recherche historique en 1949, mais le centre d'études économiques de 1951 suit de près, puis le centre d'études sociologiques, donc des laboratoires qui établissent aussi des ponts avec d'autres institutions de recherche, et la place aussi importante du CNRS qui a été créé juste avant la Seconde Guerre mondiale et qui s'est étendu après la Seconde Guerre mondiale, des programmes de recherche comme les programmes consacrés aux aires culturelles, donc une grande, forte croissance qui amène d'une certaine manière à avoir dans l'édifice École pratique des hautes études une sixième section surdimensionnée, avec des complications administratives. La sixième section n'a pas d'indépendance financière. Tout remonte au président de l'EPHE. D'où une volonté de faire sécession et de créer un établissement proprement dit, un établissement qui va s'appeler, en 1975, l'École des hautes études en sciences sociales. Avec l'oubli du terme pratique, parce qu'il pouvait faire, vous voyez, confusion avec une école appliquée. École des études en sciences sociales, donc l'école où vous êtes date de 1975, avec le soutien du gouvernement, notamment du ministre de l'Éducation nationale, Joseph Fontanet, de son conseiller Jean-Claude Casanova, qui est aujourd'hui président de la Fondation nationale des sciences politiques. On voit aussi comment est-ce que finalement l'école a su mobiliser assez loin pour se construire. Et puis avec une deuxième controverse, le fait que c'est l'historien médiéviste récemment décédé, Jacques Le Goff, qui donc est à l'origine de la création de l'EHESS et qui a dû affronter l'hostilité ouverte de Fernand Braudel. Fernand Braudel qui estimait que seul lui pouvait créer l'EHESS, et donc il n'a pas tout à fait accepté que ça soit un autre de ses collègues qui réussisse ce grand projet. Il a un moment donné, enfin, comme il était président de la Maison des sciences de l'homme, une institution, une fondation privée qui existe toujours, il y a eu un moment de forte tension entre les deux institutions. Les choses sont rentrées dans l'ordre ensuite, et l'école a, donc l'EHESS a continué donc une forte croissance, croissance même matérielle, incarnée par l'installation de l'EHESS dans le bâtiment moderne du boulevard Raspail, du 54 boulevard Raspail, qui sera bientôt rendu donc à l'EHESS et à la Maison des sciences de l'homme. Il est en cours de désamiantage, avec l'installation aussi d'antennes universitaires en région, et notamment Toulouse, hein, qui donc a permis aujourd'hui à l'école de s'honorer d'un prix Nobel, mais aussi Marseille. Une installation de l'école, par exemple, dans l'ex-Europe de l'Est, donc sortie donc de l'ordre communiste, hein, avec création donc de ces ateliers de doctoral qui permettent à des étudiants de Hongrie, de Roumanie, de venir faire des études en France. Et puis, donc, en 1983, l'école profite d'une loi permettant l'extension des grands établissements d'enseignement supérieur et scientifique pour se constituer en grand établissement par un décret de 1984 consolidé en 1985. Et donc, en fait, c'est dans cette école que vous êtes désormais. Hein, c'est bien l'école de 1985, mais avec, vous voyez, cette histoire longue et cette histoire qui témoigne, je veux dire, de la difficulté d'institutionnaliser des projets scientifiques. Et en même temps, c'est le projet scientifique et sa clarté qui a su mobiliser les énergies individuelles et collectives pour aller jusqu'à cette institutionnalisation. Donc l'histoire, effectivement, est intéressante aussi pour comprendre, au fond, comment est-ce qu'on peut, conserver un projet scientifique et l'inscrire dans une institution originale qui était nécessaire pour la réalisation de ce projet scientifique, qui est partagé par l'ensemble des membres de cette école et en premier lieu par les étudiants qui viennent s'y inscrire, c'est-à-dire vous. Merci.
Merci beaucoup, Vincent Duclair. Je crois que ces précisions, même si c'est bref, étaient nécessaires pour comprendre le projet intellectuel de l'école d'études, qui ne naît pas complètement de rien dans l'université française, mais qui occupe quand même une place à part. On aurait pu ajouter un mot sur le diplôme de l'EHESS qu'on présentait avant, et qui n'est plus présenté, mais qui était un diplôme spécifique, qui existe toujours, qui permettait aux gens qui n'avaient pas fait d'études, pas le bac non plus, d'entamer des études universitaires, des études de recherche, au même titre que des personnes titulaires d'un bac. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Mais cette idée qu'on se forme à la recherche par la recherche, qui est toujours très présente. Alors, je vous présente Jérôme Dokic, qui est directeur d'études à l'EHESS. Merci, Vincent. Et surtout, maintenant, responsable de la DEV, la Direction des enseignements et de la vie étudiante. Il vient d'entrer dans ses fonctions il y a quelques semaines. Donc, Jérôme Dokic, merci.
Merci Eric. Donc on a eu deux exposés d'une grande profondeur temporelle, hein, vers le passé et vers le futur. Alors là, on va changer d'échelle. J'aimerais vous présenter quelques éléments qui, en réalité, seront développés au cours des ateliers, au cours des rencontres que vous allez faire aujourd'hui. Je voulais vous parler un tout petit peu des différents diplômes délivrés par le HESS et des interlocuteurs auxquels vous aurez affaire au cours de votre formation. Alors, comme vous savez, il y a un certain nombre de diplômes, ça va, des diplômes qui sont délivrés. Je ne vais pas parler ici de l'habilitation à diriger des recherches, qui ne devrait vous concerner que dans quelques années, pour certains d'entre vous. Comme vous savez, bon, il y a le master, il y a le doctorat, Eric vient de le rappeler, il y a également le diplôme de l'EHESS, hein, qui n'est pas un diplôme national, mais qui est un diplôme propre à l'école et auquel l'école tient beaucoup. Donc c'est un diplôme qui peut être un peu mal connu, donc si vous pouvez en faire un petit peu de publicité auprès effectivement de vos camarades qui n'ont pas forcément fait une formation académique, pas nécessairement, et qui souhaitent par exemple préparer en général en 3 ans un travail de recherche qui leur donne accès ensuite à la seconde année d'un master de l'EHESS. Donc ça s'appelle le diplôme de l'EHESS. Je ne sais pas si il y a des diplômants dans la salle, hein, d'étudiants qui préparent le diplôme. Alors, je ne vois pas ce qui se passe en salle 7 et 8, hein, mais peut-être qu'il y a plein de mains qui se lèvent. Mais là, effectivement, c'est un diplôme qui est relativement peu connu, mais qui existe et auquel nous tenons, parce que c'est un diplôme qui a une certaine valeur symbolique aussi pour ce qui concerne les objectifs de l'école. Donc préparer la recherche, c'est pas forcément, disons, réservé aux étudiants qui ont une formation en licence ou qui ont une formation académique classique. Ça peut aussi concerner des étudiants qui veulent changer d'orientation ou des étudiants qui ont une formation tout à fait différente. Voilà, donc je ne parlerai pas davantage du diplôme, mais encore une fois, regardez la description qui en est faite sur le site de l'école et n'hésitez pas à faire de la publicité auprès de vos amis, de vos connaissances, pour ce qui concerne l'existence de ce diplôme. Donc l'un des objectifs de cette journée est de vous présenter les interlocuteurs et les services auxquels vous aurez affaire. Alors, il y a deux services, évidemment, deux ensembles de services qui vous concernent immédiatement. Il s'agit d'une part des secrétariats pédagogiques de votre formation de master ou de votre formation doctorale. Et comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, c'est auprès de ces secrétariats que vous procédez à une inscription pédagogique. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'inscription administrative qui est faite au service de la scolarité de l'EHESS. Alors cette séquence qui va de l'inscription pédagogique à l'inscription administrative, elle n'est pas propre à l'école des hautes études, mais elle a un caractère symbolique pour nous, parce qu'elle témoigne de l'importance que l'école accorde à votre projet de recherche. Un projet de recherche au sens large, ça peut être une simple lettre de motivation dans le cas d'une entrée en M1, ça peut être un projet un petit peu plus substantiel, enfin ça doit être un projet un peu plus substantiel en M2, et c'est un projet de thèse en doctorat, bien entendu. Mais à l'origine de votre relation à l'école des hautes études, il y a une initiative de votre part. C'est-à-dire que vous présentez un projet d'étude, un projet de recherche, vous entrez en contact avec un enseignant-chercheur, et c'est à la suite de cet échange entre cet enseignant-chercheur et vous que vous procédez à une inscription pédagogique. Ça, c'est un élément extrêmement important et qui rejoint, disons, les descriptions qui ont été faites de l'école dans les exposés précédents. Donc c'est vous qui venez vers nous avec une ébauche de projet, c'est vous qui nous présentez vos motivations de recherche, vos motivations d'études. Évidemment, votre projet est élaboré, développé en concertation avec un enseignant-chercheur qui devient soit votre tuteur en master, soit votre directeur de thèse en doctorat. Ça veut dire que vous avez une grande liberté, qu'on vous laisse une grande liberté, qu'on vous accorde ou qu'on vous laisse développer une certaine autonomie, mais cette liberté et cette autonomie peuvent parfois vous déconcerter et vous désorienter dans un premier temps. Donc j'aimerais expliquer comment on peut faire face à une éventuelle désorientation dans les premières semaines de votre inscription. Alors, un possible facteur de désorientation, Pierre-Cyril Auqueur l'a mentionné, c'est l'offre foisonnante des enseignants proposés à l'EHESS, près de 1000 séminaires, ce qui impose à chaque étudiant l'élaboration d'un parcours à la carte, à nouveau en concertation avec le tuteur ou le directeur de recherche. Vous aurez remarqué aussi qu'à l'école, la plupart de ces enseignements sont appelés des séminaires, et pas nécessairement des cours, ce qui peut parfois surprendre, et ce qui représente une autre différence par rapport à des établissements universitaires classiques. La profession de foi de l'EHESS, c'est suffisamment indiqué sur le site, mais il faut le répéter, c'est l'enseignement de la recherche par la recherche. Donc ce qu'on propose dès le master, dès la première année du master, c'est une immersion précoce, mais pédagogiquement encadré dans le monde de la recherche. Alors les séminaires, vous le verrez, sont plus ou moins fondamentaux. Il y a évidemment beaucoup de séminaires qui s'adressent à des étudiants qui commencent leur formation de master, donc des enseignements plus propédeutiques qui présentent les bases d'une problématique. Mais il y a aussi, à l'autre extrême, les séminaires de recherche des enseignants-chercheurs de l'école. Ces séminaires sont des séminaires dans lesquels les collègues présentent leurs recherches, parfois sur plusieurs années. Donc ce ne sont pas des séminaires qui sont répétés chaque année, mais ce sont des séminaires qui se prolongent d'une année à l'autre, ce qui, pour vous, peut rendre un tout petit peu, enfin peut exiger un effort supplémentaire pour suivre, participer plutôt à ces séminaires, et donc qui requiert de votre part une certaine adaptation pour bénéficier pleinement de l'enseignement proposé, mais ça il faut le savoir, donc il y a des séminaires qui se poursuivent sur plusieurs années. Bien entendu, les enseignants-chercheurs accueillent, les collègues accueillent de nouveaux étudiants chaque année, d'autres étudiants poursuivent l'enseignement qu'ils avaient commencé à suivre l'année précédente ou les années précédentes, donc les enseignants sont là aussi pour permettre aux nouveaux étudiants de bénéficier des recherches du collègue. Mais enfin, il faut savoir que certains enseignements sont en réalité répartis sur plusieurs années. Ce qui veut dire que, comme l'a dit aussi Pierre-Cyril Auqueur, n'hésitez pas à, disons, assister pendant les premières semaines à beaucoup de séminaires différents, quitte ensuite opérer une sélection parmi ces séminaires. Il y a aussi peut-être quelque chose qui peut déconcerter selon, disons, la nature de votre formation initiale. Ça a été également mentionné. C'est l'interdisciplinarité qui est propre à l'école des hautes études, je pense, qui est une interdisciplinarité qui peut prendre des degrés plus ou moins forts, on va dire, mais qui se manifeste, j'allais dire, non seulement au niveau de la méthodologie, c'est-à-dire c'est pas seulement qu'on va faire appel à différentes disciplines pour traiter une problématique, mais c'est aussi une démarche qui permet de faire émerger de nouveaux objets, des objets essentiellement interdisciplinaires, pour ainsi dire, c'est-à-dire des objets qui sont pas accessibles ou qui sont pas qui n'émergent pas au travers d'un seul regard disciplinaire. Donc ça, c'est aussi un point important. La guerre, le genre, beaucoup de thèmes sont, on va dire, essentiellement interdisciplinaires. Alors ça, c'est aussi peut-être un trait important de l'école qui demandera à certains d'entre vous un petit peu d'adaptation. Alors, je vais rentrer je vais pas être trop long, parce qu'on a, beaucoup d'interventions et d'ateliers aujourd'hui, mais j'aimerais quand même entrer un tout petit peu dans le détail pour identifier avec vous les interlocuteurs qui vous guideront et vous orienteront en fonction de vos intérêts, de vos motivations. Alors pour le master, il y a évidemment le tuteur. Bon, le tuteur en M1, c'est quelqu'un qui vous aide à choisir vos enseignements, qui vous oriente un peu dans la carte proposée. En M2, il s'agit le plus souvent du directeur du mémoire. Le plus souvent, M2, il y a un mémoire de recherche, et là, évidemment, quelqu'un vous encadre. On l'appelle également le tuteur, c'est plutôt un directeur de mémoire. Donc ça, c'est votre interlocuteur, on va dire, principal en master. Mais vous avez d'autres interlocuteurs, à commencer par le secrétariat pédagogique de votre formation. Donc c'est important pour vous d'identifier assez rapidement, vous l'avez fait pour la plupart, évidemment, d'identifier, disons, les collègues qui animent le secrétariat pédagogique de votre formation. Et il y a également un responsable pédagogique de la formation. Ce n'est pas forcément votre interlocuteur le plus fréquent, mais ça peut être quelqu'un qui vous avez besoin de vous adresser dans certains cas si vous n'avez pas obtenu les réponses que vous cherchiez au niveau du secrétariat pédagogique de la formation ou au niveau du tuteur. Vous pouvez vous adresser aussi au responsable pédagogique de la formation. Et derrière le responsable, il y a un conseil. Chaque formation a un conseil pédagogique, auquel vous pouvez également vous adresser à nouveau si vous n'avez pas eu les réponses à votre question. Il y a aussi d'autres acteurs, si vous voulez, qui sont importants dans votre formation. Il y a un certain nombre de doctorants qui enseignent, qui ont ce qu'on appelle un DCE, qui a un contrat d'enseignement. Il peut s'agir de normaliens, mais d'étudiants normaliens, mais pas nécessairement. D'accord ? Et ce sont des étudiants auxquels vous pouvez aussi vous adresser si votre formation engage de tels acteurs. Vous pouvez également vous adresser à eux. Il y a les ATER, les attachés temporaires d'enseignement de recherche, qui en principe dispensent des enseignements plutôt fondamentaux, plutôt méthodologiques. Et il y a enfin des enseignants de langue qui peuvent aussi vous aider à rédiger des notes de lecture, à concevoir la structure d'un mémoire de recherche, à établir une bibliographie, et ainsi de suite, en français ou dans une langue étrangère. En doctorat, vous avez également, évidemment, l'interlocuteur principal qui est votre directeur de recherche, hein, celui qui encadre votre travail sur 3 ans, ou un peu plus. Pour ce qui concerne le doctorat, il y a un point très important, c'est que, comme vous le savez déjà, si vous êtes doctorant ou si vous allez bientôt vous inscrire en doctorat, le doctorant est rattaché à un centre. Il est rattaché à un laboratoire, un centre de recherche. Ça peut être une UMR du CNRS reconnue, enfin, cohabilité avec le HESS, ça peut être d'autres types de centres dans certains cas, mais vous êtes dans tous les cas inscrit ou rattaché à un centre. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très important pour nous. Ça veut dire que, de par votre inscription dans un centre, les doctorants ou les futurs doctorants, les doctorants sont des jeunes chercheurs qui ont une force d'initiative. C'est-à-dire que dans un labo, vous pouvez, en principe, souvent il y a un séminaire des doctorants, vous avez la possibilité d'organiser un atelier, vous avez la possibilité d'organiser une journée d'études, vous avez la possibilité d'établir un petit réseau de recherche entre les doctorants, éventuellement les post-doctorants. Donc vous avez une force d'initiative, là. Donc, profitez-en. Je rappelle aussi, je voulais en parler un petit peu plus tard, mais je ne vais pas dire tout ce que j'avais l'intention de dire. Les formations ont un petit budget, malheureusement, assez modeste. Mais vous pouvez aussi faire des demandes, par exemple, si vous souhaitez, à la fois en master ou en doctorat, c'est une demande qu'on adresse à l'école doctorale. Vous pouvez également, un petit budget, si vous voulez organiser une journée d'études, ou bien inviter quelques collègues de l'étranger. Encore une fois, le budget est malheureusement très modeste, mais il faut savoir qu'il existe. Voilà, donc là aussi, donc le doctorant, il a comme interlocuteur principal son directeur de recherche, mais il a aussi son directeur de thèse, mais il a également éventuellement le directeur du labo. En général, il y a un conseil de labo. Et en général, il n'y a pas toujours, mais il y a aussi des équipes de recherche. C'est-à-dire le labo est structuré en équipes. Et il faut que le doctorant identifie l'équipe qui lui convient le mieux en fonction de son domaine de recherche. Donc voilà, rappelez-vous qu'à l'école, donc, il y a cette structure tripartite. Hein, il y a les formations de master, les formations doctorales et les centres de recherche. Hein, donc il s'agit de, si vous voulez, d'instances qui sont, ou d'organisations qui sont relativement, entre lesquelles il y a des passerelles particulièrement évidentes, mais qui sont en principe indépendantes entre elles, d'accord. Donc, à une formation de master peuvent correspondre différentes formations doctorales. À un même centre de recherche peuvent correspondre différentes formations doctorales. Même si, à nouveau, comme je viens de le dire, il y a des passerelles qui sont peut-être un petit peu plus saillantes que d'autres. Pour les doctorants, là, je mentionne très rapidement parce que vous en saurez plus, j'espère, très bientôt, mais l'école réfléchit à la mise en place expérimentale d'un comité de thèse, hein, dont la cible principale serait les doctorants, pour l'instant, les doctorants contractuels. Donc l'idée, c'est de mettre en place un petit comité de thèse. C'est une structure très souple, hein, parce que les modalités sont très différentes selon les disciplines, enfin selon les champs, etc., les problématiques. Donc on n'impose pas une structure très rigide, c'est pas souhaitable. C'est plutôt, l'idée du comité de thèse, c'était plutôt l'idée de faire en sorte que le doctorant n'ait pas le directeur de thèse comme interlocuteur unique dans son parcours doctoral et qu'il puisse éventuellement se décentrer un tout petit peu. Mobilisant les membres d'un comité de thèse qui serait donc identifié dès le commencement d'une thèse. Mais je vous en dirai plus parce que pour l'instant ça n'existe pas. Hein. Donc c'est une mise en place qui a été proposée au niveau du conseil scientifique et je vais essayer de la mettre en place le plus tôt possible. Voilà, pour terminer, donc, pour vous orienter aussi dans la carte des enseignements, évidemment, il y a le programme des enseignements et des enseignements et séminaires donc, qui vous a été distribué ce matin. Ça, c'est un instrument précieux. Vous pouvez aussi regarder le compte-rendu des enseignements. Hein. Ça, c'est introspectif. Ça vous permet de regarder ce qui s'est passé dans les années précédentes. Donc les enseignants sont tenus de faire un compte-rendu de leur séminaire, leur enseignement. N'oubliez pas que ce programme a été élaboré, je crois, au printemps. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de modifications qui ont été apportées depuis le printemps, c'est bien naturel. Donc n'oubliez pas aussi de vous référer au site de l'EHESS, hein, où vous avez une mise à jour au fil de l'eau, y compris quand un séminaire est annulé. Enfin, ce serait bien que les enseignants aient davantage le réflexe d'aller effectivement indiquer un changement dans l'organisation de leur séminaire qui sera immédiatement affiché sur le site disponible sur le site de l'école. Donc allez voir hein, sur le site pour des précisions sur le lieu, l'horaire, etc., s'il y a eu des changements. N'oubliez pas aussi qu'il y a un certain nombre de bourses et d'aides qui vous sont proposées, aides au terrain, il y a le budget des formations, comme ça c'est l'aide scientifique, on va dire, mais il y a aussi des aides d'autres types. Donc là, le site de l'école les indique, je ne peux pas développer ça ici, mais je pense que ça le sera à un moment ou un autre dans la journée. Donc n'oubliez pas que ça existe. Il y a également une mission handicap, un bureau d'accueil et d'accompagnement des étudiants handicapés. Donc là... vous aurez d'autres informations sans doute également plus tard. Voilà, le message principal, donc, c'est que au-delà de votre référent principal, tuteur, directeur de thèse, n'oubliez pas qu'il y a un ensemble de collègues, il y a un encadrement collégial hein, qui peut vous aider si vous avez des difficultés ou si vous n'obtenez pas les réponses que vous vous posez. Et in fine, évidemment, vous avez la direction de l'école doctorale et la direction de l'enseignement. C'est-à-dire moi-même, mais évidemment, c'est seulement si vous n'avez pas eu les questions qui vous tiennent à cœur au travers des différentes instances que j'ai mentionnées. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Enfin, si tu veux rajouter...
Merci. Non, enfin, je crois qu'il y a pas mal de précisions qui vont arriver au cours de la matinée, notamment concernant les aspects pratiques de la scolarité ici, et puis là, juste les exposés qui vont suivre par des enseignants sur le contenu ou la nature du master et celle de la thèse à l'EHESS. Juste un mot alors avant d'introduire notre orateur suivant, Alban Bensa, qui va venir parler de qu'est-ce qu'un faire un master à l'EHESS. Juste une petite précision, vous venez d'écouter Jérôme Dokic, qui est responsable de la DEV et de l'enseignement à l'EHESS, mais il est aussi philosophe. Hein, notre président Pierre-Cyril Auqueur est historien de l'économie. Hein, enfin, tous ces gens que vous entendez sont aussi des chercheurs qui, avant d'avoir des responsabilités administratives à un moment donné de leur carrière dans l'école, sont des chercheurs. Hein, c'est aussi ça, peut-être que c'est pas là où on est le meilleur en tant que chercheur, l'aspect administratif, mais c'est aussi une école qui est en partie gérée par ses enseignants-chercheurs. Ce qui fait son charme, mais c'est aussi ce qui fait que elle est en tout cas, c'est pas complètement détaché, si vous voulez, des aspects administratifs qu'on considère au cœur, sans faire de jeu de mots, au cœur de la recherche aussi, étant donné que ça évolue des fois plus vite qu'on ne le voudrait, à la fois les diplômes, débouchés de ces diplômes, mais surtout la manière dont la scolarité se déroule. Donc, on a le plaisir d'accueillir Alban Bensa, qui est directeur d'études et qui est anthropologue, qui va nous parler ce que c'est faire un master à l'EHESS. Il n'en a pas fait parce que ça n'existait pas les masters à l'époque, mais il en a dirigé quelques-uns. Et donc là, plutôt que vous parler des aspects uniquement pratiques ou concrets de qu'est-ce que c'est un master en général, à l'EHESS, on fait des enquêtes. Donc c'est les cas particuliers qui nous intéressent et l'expérience plutôt que la généralité. À toi, Alban.
Merci, Eric. De m'avoir convié, donc, à bonjour, là, vous êtes très nombreux, nombreuses à vous parler du master. Je ne vais pas en parler d'un point de vue technique et administratif, comme l'a rappelé Eric Mittersheim à l'instant. Nous faisons un joyeux mélange entre la recherche et l'administration en essayant de faire de notre mieux. Mais là, en ce qui me concerne, dont je voudrais vous parler, c'est... des caractéristiques du master à l'EHESS, qui est un objet, pas non identifié, mais un objet original dans la palette des masters qui sont offerts à Paris et en France, puisque vous savez que l'école a aussi des antennes à Lyon et à Toulouse et à Marseille. Voilà. Donc, le master, comme vous le savez peut-être, a succédé à une longue période. Moi, je suis rentré à l'école des hautes études en sciences sociales en 1990. Et pendant mes 10 premières années à l'école, même un peu plus, je ne sais plus quand est-ce qu'on a pris le master, hein, 2004, donc vous voyez, pendant 14 ans, on prenait les gens, on les inscrivait en cinquième année, pour la cinquième année qui précédait l'année de thèse, c'est-à-dire après la maîtrise. Et c'était ce qu'on appelait le DEA, diplôme d'études approfondies, et qui avait été pensé un petit peu comme une année de pré-thèse, enfin une préparation à la thèse. Ensuite, après les décisions européennes prises à Bologne, etc., le HESS s'est aligné sur la norme commune qui était de commencer, de diviser la carrière des étudiants, les trois premières années jusqu'à la licence, puis ensuite deux années pour le master, ensuite les études doctorales. Et donc, il a fallu que l'école repense un petit peu son système de formation en acceptant des étudiants une année plus tôt, donc au sortir de la licence, en réfléchissant à ce que pouvait être le M1, le M2 étant déjà dans notre idée un petit peu ce qu'était le DEA. Donc là, il y avait une espèce de dédoublement et une nouvelle responsabilité, puisqu'on accueille des étudiants qui ont une année de formation de moins qu'à l'époque du DEA. Et ça nous a amené à réfléchir aussi en accord avec le ministère, parce que on rentrait dans la norme, il fallait répondre à un certain nombre d'exigences, notamment sur ce qu'on pourrait appeler pas des savoirs fondamentaux, mais disons des bases à acquérir, indispensables et considérées en tous les cas comme telles par le ministère. En effet, alors ça prenait l'école un petit peu à contre-pied, hein, et donc j'ai vécu ce contre-pied, et je suis encore dedans, si vous voulez, c'était que jusqu'en 2004, donc, le DEA, c'était l'enseignement de la recherche par la recherche, c'est-à-dire que chaque enseignant, maître de conférence ou directeur d'études, enseignait à partir de ses propres recherches, faisait de ses recherches le thème de son séminaire, et l'initiation à la recherche par la recherche reste la vocation de l'école. Encore fallait-il, à partir du moment où on commençait plutôt en M1, aider les étudiants à entrer dans ce dispositif qui pouvait paraître trop pointu ou trop difficile ou déjà axé sur la thèse. Deuxième chose, le master, comme vous le savez, le DEA était une pré-thèse, mais pouvait être une fin d'études. Le master, à l'école, je ne pense pas qu'il y ait de master pro, mais le master est aussi une fin d'études possible. Hein, et tous les étudiants qui suivent nos formations n'ont pas nécessairement vocation à devenir enseignants-chercheurs. Il y a toutes sortes d'hypothèses. C'est aussi un endroit d'aiguillage. Et j'ai beaucoup d'étudiants dont je sais ce qu'ils sont devenus, par où ils sont passés, ou que je retrouve, je ne sais pas, dans l'édition, mais aussi dans la solidarité avec les peuples en difficulté, dans l'aide humanitaire, dans l'écologie, dans le cinéma. Enfin, il y a énormément de pistes, si vous voulez, qui sont ouvertes par cette formation. Alors, ce master, quel est l'esprit du master? C'est de ça dont je voulais vous parler. L'esprit du master, c'est que c'est un parcours que vous construisez avec la directrice ou le directeur d'études qui vous accueille. Alors ça, c'est un dispositif original de l'école qui ne nous fait pas que des amis sur la place des sciences humaines et sociales, puisque l'inscription est au bon vouloir du directeur et de la directrice. C'est pas automatique. Avant, j'ai enseigné à la Sorbonne, à Paris 5. Là, c'était automatique. Il y avait des pochettes d'inscription. Et puis, quand les salles étaient pleines, on disait, bon, ben, on arrête. Bon, il y avait aussi des mesures politiques. Enfin, il y a toute une histoire compliquée sur les pochettes d'inscription. Mais les étudiants, on ne les voyait pas avant. Ils arrivaient le premier jour dans l'amphi. Voilà, ils étaient inscrits en première année. Et ainsi de suite. Ils pouvaient s'inscrire aussi en maîtrise. Il y avait, bon. Alors que là, on est dans un système sélectif, je vais le reconnaître, qui passe par la directrice ou le directeur d'études, qui vous recrute, qui vous choisit sur votre projet. Donc la base, c'est vous. C'est aussi c'est à double tranchant. Bien sûr, il y a l'autorité de l'enseignant, mais il y a aussi la volonté de l'étudiant de faire valoir son projet, sa perspective de recherche, ses centres d'intérêt. Et il est certain que je n'aurai pas le temps de raconter tout ça, mais dans nos enseignements, on s'est ensuite un petit peu ajusté, si vous voulez, au projet, aux préoccupations nouvelles des étudiants qui changent, qui sont plus les mêmes. Je sais pas, je peux prendre un exemple peut-être. Voilà, il y a très peu de gens qui veulent travailler, sur les sabotiers en Creuse. Voilà, j'en vois pas beaucoup. Bon, mais peut-être qu'il y en a. Je pense pas que ce soit un mauvais sujet. Si vous voulez, il y a pas de mauvais sujet, mais il y a des sujets qui font. Voilà, on a plus de choses sur les problèmes contemporains. Je parle pour l'anthropologie. Pour la philosophie, j'imagine qu'il y a aussi des variations de mode, des effets d'ouvrage, d'auteur, etc. Mais pour l'anthropologie, il est certain qu'on a plus de propositions autour de la question du genre, de la question de l'écologie, de la question de l'immigration, des problèmes politiques nombreux et insolubles qui se posent sur la planète, etc., etc. Donc, nous avons essayé de nous adapter à cette demande, mais la demande, c'est vous qui la faites, si vous voulez. Et en fonction de l'avancement de votre projet, de l'intuition qu'on peut avoir de ce que vous pouvez produire d'intéressant, vous êtes inscrite ou inscrit, et à ce moment-là, vous avez une offre très importante. Une offre très importante dans l'école, puisque quelle que soit la discipline que vous ayez choisie, la discipline principale, l'histoire, l'anthropologie, la philosophie, la linguistique, etc., la sociologie, vous construisez votre parcours à partir, je crois que c'est 8 séminaires qu'on doit choisir. Ça dépend des formations. Bon. Et dans ces séminaires, vous avez maintenant un certain nombre de séminaires qui sont obligatoires parce que, justement, pour répondre à la demande du ministère, il fallait bien, proposer une sorte de remise à niveau ou de recyclage. C'est vrai que pour un anthropologue, quelqu'un qui saurait absolument pas qui est Lévi-Strauss, bon, il faut l'informer. Hein. C'est voilà. Je pense un exemple caricatural, si vous voulez, mais l'idée qu'il y a quand même un certain nombre de textes qui peuvent être critiqués, mais qui doivent être connus, si vous voulez, sans établir justement une frontière stricte entre les disciplines. Vous avez quand même ces enseignements obligatoire, et puis tous les autres enseignements, ce sont vous qui les choisissez, soit dans la discipline principale qui est la vôtre, mais vous pouvez en choisir un, voire deux, dans une autre discipline, en histoire, en philosophie, en sociologie, en sciences du langage, sciences des arts et des lettres. Là, les gens qui s'intéressent à la sociologie, l'anthropologie et l'histoire de l'art. Donc vous pouvez construire ce parcours de façon qui vous fasse traverser plusieurs disciplines. Et ça, c'est une originalité absolue de l'école. Quand j'étais à la Sorbonne, j'avais demandé à ce que les étudiants puissent suivre des cours d'histoire. On m'a dit que c'était insensé, que les historiens, c'est des historiens, les anthropologues, c'était des anthropologues, et qu'il y avait des cloisons étanches, et que c'était même pas la peine. Bon, à l'école, vous pouvez aller butiner, évidemment en accord avec votre directeur, votre directrice de recherche, et donc vous construire quelque chose qui permet d'enrichir votre perspective. Voilà. Alors, le deuxième élément, je terminerai là-dessus, c'est que nos enseignements, les enseignements que vous choisissez, ne sont pas normés. C'est-à-dire que nous ne nous réunissons pas sous la houlette d'un maître ou d'une école, hein, d'une école de pensée, qui nous dirait « bon, voilà, c'est ça qu'il faut enseigner, c'est ça l'anthropologie, c'est ça la philosophie, c'est ça l'histoire ». Les enseignants-chercheurs sont entièrement libres et vous, vous êtes libre de choisir ceux qui vous intéressent. Donc du coup, vous avez, et pour l'anthropologie par exemple, c'est tout à fait patent, l'anthropologie est extrêmement diverse aujourd'hui, vous allez entendre différents sons de cloche. Vous allez entendre des gens qui disent le contraire de ce que le séminaire d'avant vous a dit, éventuellement. Mais on travaille quand même ensemble. Il y a un conseil pédagogique qui se réunit, qui statue justement sur des bourses qui peuvent être données, etc. On a quand même le sentiment d'appartenir à cette discipline, mais cette discipline, elle est diverse et variée. C'est la même chose dans toutes les autres. Donc vous avez une perspective extrêmement ouverte. Et si on a un label dans nos différents produits transversales à tout ce qu'on propose, c'est peut-être l'esprit critique. Voilà, un regard critique, un regard distancé sur les savoirs et une remise en perspective des savoirs permanente, alors que dans d'autres endroits, on enseigne les savoirs comme s'ils étaient constitués et qu'ils devaient être transmis en l'état. Or, dans nos disciplines, plus qu'ailleurs, mais je pense que dans les sciences dures, c'est la même chose, tous les savoirs sont fragiles, on les repense, on peut les reconsidérer, y compris les choses les plus apparemment les plus acquises et les plus fondamentales. Donc il y a cette perspective critique, et évidemment la perspective de la recherche. Votre mémoire, alors pour l'instant, il n'y a pas de mémoire en M1, enfin, en anthropologie, il n'y en a pas, il paraît qu'il y en a dans d'autres disciplines, mémoire en M2, mais le mémoire, c'est justement l'exercice de réfracter par cette expérience. Vous avez un sujet et vous pouvez l'aborder sous différents angles, dans une perspective critique ou pas, avec votre directeur ou directrice de recherche. Et évidemment, c'est un travail d'écriture important. Et souvent, c'est là, d'ailleurs, que les choses coincent. Enfin, de toute manière générale, c'est toujours là que ça coince. Quoi. Dès qu'on vous demande un texte, même nous, je ne fais pas un résumé d'une communication, mais on met du temps, si vous voulez. Bon, ben, vous mettez aussi du temps. Donc, le travail d'écriture est très, très important. C'est quand même un galop d'essai fondamental qui peut vous conduire. Alors, ensuite, on voit comment la soutenance du mémoire de master se passe, où il y a deux enseignants qui l'évaluent, et c'est là il y a une discussion sur votre avenir après, savoir dans quel sens vous aiguillez. Par exemple, l'année dernière avec Eric, on a eu une étudiante, bon voilà, c'était intéressant, c'était original, elle travaillait aussi en dessinant, donc il y avait une dimension nouvelle, on a accueilli, hein, mais finalement, à la fin du parcours, le parcours était très original, mais un peu fluide, etc. Et on a eu l'impression que c'était peut-être pas dans cette discipline ou dans l'anthropologie qu'elle serait... Bon, elle a eu une bonne note, mais on l'a aiguillée vers d'autres formations qui sont à l'extérieur de l'école. Donc, si vous voulez, il y a une discussion sur ce moment très important pour votre avenir, qui est ce moment de la fin du mémoire, savoir si vous allez ou non vous inscrire en thèse. Je crois que cet après-midi, on va parler des thèses. Si vous voulez ou non vous inscrire en thèse, quel parcours complémentaire vous pouvez faire. Quelquefois, ça arrive, il y a des gens qui ne terminent pas leur mémoire en 2 ans et on leur donne, mais c'est exceptionnel, une année supplémentaire parce qu'ils travaillent à côté, parce que c'est pas encore tout à fait mûr, mais on pense que ça va porter ses fruits. Donc voilà, donc donc ça suppose une proximité, et de votre côté, vous avez une offre très ouverte, il y a une part de liberté et de responsabilité, quoi, voilà, pour parler comme l'UMP. Hein. Donc, voilà ce que je peux dire. Peut-être qu'il y a des questions, mais c'est un parcours, évidemment, qui nous passionne, parce qu'on essaye de répondre aux nouveaux problèmes que vous nous posez, hein, compte tenu de vos expériences, de votre diversité, d'où vous êtes venu, de ce que vous avez fait avant, etc. Et il y a eu beaucoup, beaucoup d'innovations depuis 2004 dans l'école pour ouvrir des nouvelles filières qui répondent aux attentes que vous pouvez exprimer.
Voilà. Merci, Alban Bensa. Vous l'aurez compris, vous êtes libre de choisir vos séminaires. Donc, les enseignants qui vous auront emballé, mais vous voyez que le sens des invitations aussi, de vous donner envie d'aller à des séminaires, d'aller écouter des enseignants qui, tu n'étais pas là pour l'allocution du président, mais justement, on voit que s'il y a une cohérence dans l'école, elle n'est pas forcément dans les idées, mais dans le fait que les idées doivent être tout le temps renouvelées et qu'on ne transmet pas les connaissances comme des blocs comme ça qui seraient délivrés aux étudiants comme des savoirs figés qui sont au contraire totalement mouvants et repensés, y compris par vous. Hein, on a des étudiants en master qui font des terrains extraordinaires parce qu'ils sont les seuls à pouvoir aller là où justement ça se passe en ce moment, les révolutions printemps arabe ou effectivement le renouvellement de l'industrie du sabot en Creuse qui, au-delà de la plaisanterie qu'on peut faire là-dessus, justement, le monde change en permanence et c'est grâce aux étudiants, aux jeunes chercheurs qu'on peut avancer dans le renouvellement de ces connaissances qui nous semble plus important que la transmission de ces connaissances en tant que telles. On va justement écouter maintenant François Lissara qui est historien et qui va nous parler de ce qu'est une thèse à l'EHESS. Là aussi, ça a sa façon personnelle, parce qu'à la fois, faire une thèse de l'HSS, c'est à chaque fois une aventure unique pour celui qui l'a fait et celui qui la dirige.
Merci. Je ne suis pas tout à fait historien, mais helléniste. Mais bon, mais c'est peut-être pour ça qu'on m'avait demandé d'expliquer ce que c'était qu'une thèse. Je n'ai pas de réponse définitive et ferme. Donc je parle sous le contrôle d'Alban Bansa, donc je me tiens tranquille. Mais le mot est intéressant, thèse, ça vient du grec titenai, qui veut dire poser, placer, arranger. Et on a dans la nomenclature un peu ancienne des positions de thèse. Et la thèse, c'est ça, c'est une proposition qu'on avance et qu'on soutient. Et dans le système un peu ancien, au XVIIe siècle, à l'université, les thèses, elles sont soutenues publiquement et elles font l'objet d'une disputatio, d'une dispute. Pas au sens où on se met des claques, mais au sens où voilà, on argumente. Et au fond, depuis le 19e siècle, au sens moderne, la thèse, c'est ça. Dans les textes officiels, c'est très difficile d'avoir une définition plus précise qu'un travail de recherche original. Je vous signale un petit bouquin, je fais la pub des éditions de l'école, mais dans la collection Cas de figure, il y a un petit livre qui s'appelle « Devenir chercheur ». Et je crois que c'est Boutier qui a fait un peu l'enquête sur ce que les textes disent de la thèse, et il en sort avec cette constatation qu'au fond, c'est quelque chose que tout le monde dit, voilà, on fait une thèse, on ne sait pas très très bien en quoi ça consiste. Et c'est différent dans les autres pays, les anglo-saxons, les anglais en particulier, n'ont pas de soutenance publique de thèse. Elles se font en comité privé, enfin, dans mon expérience, peut-être qu'ailleurs c'est différent. Mais en tout cas, l'idée de la thèse, c'est une proposition qu'on argumente et qui, à terme, est publiée, est en tout cas publique et accessible. Et donc, comme le temps est court, parce que mes petits copains ont débordé, je ne vais pas tout rattraper, hein, mais je vais être très, très simple. Je voudrais souligner trois points. Sur la thèse comme sujet, d'abord, sujet original, sur la question du temps par rapport à la thèse, la temporalité, la durée de la thèse, et puis la thèse comme genre d'écriture, comme genre littéraire. Et c'est des questions qui reviendront, parce qu'elles sont, fondamentales. Donc la thèse, c'est d'abord une recherche originale. C'est un objet, un problème et une source. Là encore, je schématise, mais la thèse n'est ni une compilation, ni une synthèse de choses élaborées par ailleurs, même si, évidemment, dans le travail de la thèse, vous avez à vous imposer ça d'abord, c'est-à-dire un travail personnel de compilation, d'état de la question, qui permet de situer l'originalité de ce que vous faites. Mais c'est d'abord une originalité. On a souvent tendance, pour avoir l'air plus original, à caricaturer les prédécesseurs, à les rendre plus crétins qu'ils n'étaient, ou à les simplifier, pour mieux s'opposer à leur position. Je ne vous encourage pas à le faire, les anglo-saxons font beaucoup ça, chez nous aussi, ça se pratique. Je pense que l'attention, ce qui a été dit tout à l'heure, au fond, ce qu'on fait le plus souvent ici, les outils qu'on essaie de se fournir, c'est l'esprit critique. Et un esprit critique qui fonctionne, c'est d'abord quelqu'un qui a lu l'autre et qui l'a lu attentivement à partir de pourquoi il pense comme ça. Et pas moi d'abord et je vais me le faire. Donc pourquoi d'autres pensent différemment de la manière dont ils pensent, d'où ça vient, d'où ça sort. Donc, il y a derrière une historiographie des questions et la thèse évidemment démarre avec ça. La question de la source, elle varie énormément. Une thèse de philo, une thèse d'archéologie, une thèse d'anthropologie, c'est fonctionne pas avec le même matériau. Mais quelque part, il y a un matériau, un corpus de données dont il faut un peu interroger la constitution. En archéologie, ben, c'est la fouille qui produit du matériel. Ailleurs, c'est une enquête, donc des interrogatoires. Donc vous fabriquez complètement le matériau qu'ensuite vous allez analyser. Et donc c'est très, très différent. Il y a aussi un autre problème, mais Sylvain y reviendra tout à l'heure, c'est celle des influences. Allemand a rappelé, voilà, on n'a pas en anthropologie à l'école, mais ça c'est facile à voir, il n'y a pas une doctrine, et c'est pareil en sociologie, il y a quelques grands sociologues et grands anthropologues qui se sont un peu tirés dans les pattes ici et ailleurs. Il n'y a pas une théorie qui est la bonne et qu'il faudrait appliquer. Donc il y a évidemment en même temps des choses, vous allez choisir votre théorie, peut-être même en fabriquer une, peut-être pas par là qu'il faut commencer, mais en tout cas, il y a ces choix. Et du coup, la question des influences, du copiage et même du plagiat se pose. Qui a eu le premier? On a souvent l'impression, ah ouais, j'ai trouvé un truc génial. Et puis je m'aperçois qu'il y a un Allemand au 19e siècle qui a eu la même idée. Alors c'est vexant. En même temps, ça fait plaisir. Ça prouve que l'idée n'était pas délirante. Mais du coup, il faut référer à cette première... position de la thèse à celui qui... Donc cette originalité, ce que vous allez apporter, ça se balise avec des références, avec des citations, avec des pointages précis et le plus précis possible, de citer correctement. Et je vous encourage dans le travail de recherche. Moi, ça m'est arrivé. J'ai, sur des bouts de papelard, noté des trucs qui me plaisaient. Et puis tout d'un coup, merde, où est-ce que j'ai trouvé ça? Et il faut être très, très minutieux sur la manière dont vous prenez vos notes, et je vous encourage même à les dater. La thèse, ça dure au moins 3 ans, et vous n'allez pas penser tout à fait de la même façon à la troisième année qu'à la première. Donc ça m'amène à la question du temps et de la durée. Faire une thèse, c'est évidemment un engagement qui n'est pas évident dans un parcours de formation, mais c'est aussi un choix de vie. C'est un moment où, enfin, je ne sais pas, pour chacun a une histoire différente, mais on sort d'une adolescence, on quitte la maison des parents, il faut être... C'est un choix à la fois de vie matérielle, de financement, c'est des études longues, prolongées, un statut social qui varie, et on est dans un truc un peu flottant. Et c'est aussi un choix intellectuel que l'entourage comprend pas toujours, pourquoi il s'intéresse au sabotier dans la Creuse, à quoi ça sert et où est-ce qu'on va avec ça. En même temps, et c'est ça qui est chouette, et je suppose que c'est pour ça que vous êtes là, c'est un monde de liberté critique extraordinaire. C'est là qu'on prend le temps de lire, de comparer, de connecter, d'assembler. Et je crois que l'école est un bon endroit pour ça, parce que cette liberté de connexion, Allemand l'a rappelé, elle est très grande ici. 1000 séminaires, ça paraît obscène et ridicule, mais il y a une offre incroyable, et du coup, on peut mettre bout à bout des choses très différentes. Et je crois que c'est comme ça que ça bouge. Donc ce temps-là, il est fondateur dans une vie de chercheur. C'est vraiment une expérience. D'ailleurs, souvent, on a envie de rester là. On n'a pas envie de grandir. On n'a pas envie de finir la thèse. C'est extrêmement dangereux. C'est un processus qui est long, souvent solitaire. On vous a encouragé à vous parler entre vous. Et dans l'école, on est suffisamment nombreux. Pas toujours présent, mais quand même disponible. Et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à demander. Si votre directeur ne vous reçoit pas suffisamment souvent, en trouver d'autres, parler à d'autres. Enfin, surtout pas rester isolé, pas attendre 3 ans, dire qu'est-ce que je vais faire maintenant. Donc c'est vraiment cette durée-là, c'est un peu une assaise. Chacun a son expérience. Moi, j'ai fait ma thèse, ça a duré 10 ans, donc je suis pas très fier de ça. Mais j'étais prof de collège et de lycée, donc j'avais une bonne excuse. Et c'était un temps largement révolu, où Vidal Naquet, qui était à l'école, était très tolérant là-dessus. Ce temps n'existe plus. On peut plus faire une thèse en 10 ans. Et je crois pas que ce soit une mauvaise chose. Mais il faut pas s'illusionner sur ce que vous faites, sur vous-même, sur la durée. Ne pas se laisser aller. Ne pas attendre, voilà, d'être bloqué. Il faut vraiment rester vif. La thèse en 3 ans, c'est, je crois, vraiment difficile à tenir. C'est tenable, je pense, pour ceux qui ont des bourses doctorales, qui n'ont pas de problèmes financiers par ailleurs, donc ils peuvent se concentrer là-dessus. C'est la minorité des étudiants dans l'école, malheureusement. Mais cette durée, je crois qu'elle est salutaire, parce qu'elle vous oblige à avancer. Et mon dernier point, je prends deux minutes, sur la thèse comme genre d'écriture. À la fin, il faut écrire quelque chose. Je vois qu'Alban, il est venu avec un tout petit bout de papier. Moi, j'ai 3 pages. Rien de tout ça n'est écrit. Je crois que dans l'école, on est assez bon dans l'impro oral, comme ça. L'habitude du séminaire, elle nous a beaucoup entraînés à ça. Et on est un certain nombre, à avoir du mal à écrire. C'est pas facile d'écrire. Certains ont plus de facilité que d'autres. C'est un moment de vérité. Devant sa feuille, il faut aligner ce qu'on a mis en place. Et là, il y a 1000 méthodes, donc je ne vais pas vous donner des trucs là-dessus. Il y a des bouquins pour ça. La seule chose que je sais d'expérience, c'est que ça ne vient pas tout seul. Que si vous attendez l'inspiration pour écrire votre thèse, ça peut prendre plus de temps que vous ne l'imaginez. La thèse, c'est une rhétorique argumentaire qui est nécessaire, qui doit être explicite. C'est pas un genre facile et... On a en gros 4 niveaux. On a un texte, on a des notes, on a des catalogues et des appendices, de la biblio. C'est 4 objets écrits différents qui s'articulent l'un à l'autre. Le master, il vous sert à apprendre à maîtriser ces rapports-là. L'argument, la démonstration, la référence et la biblio. Donc, c'est pas que, je dirais qu'il faut pas se mettre à écrire la dernière année. Il faut très tôt, on n'est pas obligé de tout garder. Il faut pas être fétichiste de l'écriture, mais là encore, chacun vit comme il peut. Mais le processus d'écriture de la thèse, c'est vraiment un processus d'aller-retour. Je dis ça parce que, voilà, ça fait 20 ans que je suis à l'école. J'ai en ce moment des étudiants qui bloquent sur l'écriture. C'est dramatique. Et plus on tarde, plus c'est dramatique. Donc la recommandation que je vous fais, c'est très tôt d'écrire des canevas, des segments de la thèse, vraiment prendre cette habitude-là, de pas faire de l'écriture un fétichisme qui va vous bloquer à la fin. Et si je peux me permettre de vous donner un truc, c'est quand vous écrivez, vous arrêtez au milieu d'une phrase, et le jour où vous vous remettez devant votre feuille, ben, la phrase, il faut la finir, et donc ça s'enclenche comme ça. Voilà, après, le temps est trop long, mais bien sûr, sauvegarder... Les histoires d'ordinateurs volés, de thèses disparues, de coffres de Daniel Arras s'était fait voler sa thèse à Florence. On a plein d'histoires comme ça. Donc là, oui, soyez parano, sauvegardez, ayez un disque dur, et pas avec dans le même sac que l'ordi, parce que si on vous vole l'ordi, on vous vole la sauvegarde. Et surtout, ne restez pas isolé. Voilà. Je m'arrête là parce que le temps est court. Voilà. Merci beaucoup. Non, mais c'est historien, c'est pas une insulte, hein.